France Inter.
Et bonjour à tous, à la une de ce 13h. La SNCF tente de rassurer les usagers à la veille d'une semaine de perturbations sur les rails. Grève prévue autour du pont du 8 mai, mais on est loin d'une semaine noire, affirme ce matin la direction de la SNCF Voyageurs. Eh bien, on verra ce qu'en pense le syndicat Sudrail. Un référendum pour impliquer les Français dans la réduction des déficits publics, c'est la surprise du chef. Mais nous verrons que la suggestion de François Bayrou ne crée pas d'enthousiasme particulier dans la classe politique. Ne manquez pas, dans ce journal, ce document inédit, une interview de Klaus Barbie. Elle date de 1979. Barbie donne sa version de la mort de Jean Moulin, non pas sous la torture, mais par un suicide, affirmait le boucher de Lyon. Nous serons en Roumanie, où le dégagisme ambiant permet à un nouveau candidat d'extrême droite d'être le favori du scrutin présidentiel de ce dimanche. Et nous terminerons en musique avec le dernier album du chanteur franco-norvégien Aimé Simone. Le temps de ce dimanche, Magali Rochereau, le ciel devient bien instable au sud du pays.
Oui Eric, et puis du vent dans le nord et des températures qui rafraîchissent beaucoup.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. À la SNCF donc, toujours pas de terrain d'entente entre les syndicats et la direction. La grève débutera donc demain soir, sur les rails, jusqu'au 11 mai. Les revendications concernent les salaires et les conditions de travail, mais nous sommes loin d'une semaine noire. C'est ce qu'affirme ce matin Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs. Bonjour Mathieu Bonnour.
Bonjour Eric.
Expliquez-nous sur quoi repose cet optimisme de la direction du groupe public.
Eh bien parce que les premières prévisions viennent de tomber pour le début de la semaine et elles sont bonnes. Le PDG de SNCF Voyageurs annonce un trafic quasiment à la normale sur les lignes TGV. Il y aura quand même quelques perturbations sur certaines lignes régionales en Île-de-France. Les agents en grève peuvent se déclarer au plus tard 48 heures avant leur prise de poste. Donc pour demain et mardi, il n'y a pas de doute sur cette faible mobilisation.
Donc début de semaine moins impacté a priori par la grève. Ça pourrait se compliquer à partir de jeudi.
Les syndicats promettent toujours une forte mobilisation pour la fin de la semaine. Et là, c'est flou. Même si le PDG de SNCF Voyageurs annonce peu de perturbations, c'est difficile de s'avancer. Les agents en grève pour ce week-end de pont ont encore le temps de se déclarer dans les prochains jours. Un proche de la direction de la SNCF Voyageurs se dit même un peu circonspect par cet optimisme sans limite de son patron ce matin. En plus, les syndicats visent particulièrement le dimanche, journée de retour des vacanciers pour paralyser les gares. L'autre explication de cette annonce d'une très faible perturbation du PDG de SNCF Voyageurs, ce sont les personnels réservés. Des agents formés au poste de contrôleur qui peuvent être appelés en renfort en cas de grève pour faire circuler les trains. Combien sont-ils? Ça, aucun syndicat ne le sait précisément et la direction ne donne aucune estimation. Peut-être seront-ils assez nombreux pour remplacer les personnels en grève.
Merci Mathieu Bonnour. Vous avez recueilli une réaction, celle de Sudrail, l'un des deux syndicats qui a déposé les préavis de grève avec la CGT. Pour Julien Trocaze, secrétaire fédéral Sudrail, l'optimisme de la direction est bien prématuré.
Aujourd'hui, une entreprise ne peut pas se gargariser qu'il n'y a pas de semaine noire. C'est une stratégie patronale pour des fois peut-être ne pas encourager des cheminots, des cheminotes à rentrer dans la grève en fin de semaine et vouloir minimiser. La réalité, elle n'est pas là. La réalité, elle est qu'il y a encore le temps de se déclarer gréviste et de rentrer dans l'action ces prochaines heures. On a des remontées locales, régionales. Il y a des endroits où la grève n'est pas massive, mais il y a des endroits où la grève sera majoritaire. C'est-à-dire qu'on aura plus de 50% de travailleurs et travailleuses qui sont déclarés grévistes. Et comme on l'a déjà dit, il reste encore des heures, des jours pour se déclarer. Donc ce n'est pas encore fini, cette période de déclaration d'intention de grève.
Le secrétaire fédéral Sudrail, Julien Trocaze. François Bayrou prévient les Français ce matin dans le JDD. À propos de la dette et des déficits publics, il faudra le soutien de tous les Français, dit-il. D'où cette idée d'un référendum sur les finances publiques. Je rappelle que François Bayrou est sous la menace permanente d'une motion de censure puisqu'il gouverne sans majorité à l'Assemblée. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Service politique de France Inter. On ne peut pas dire que cette idée de référendum enthousiasme ce matin la classe politique.
Ah oui, c'est une opération de démagogie d'un Premier ministre impuissant, dénonce le président de la Commission des Finances, l'insoumis Éric Coquerel.
Bon, c'est n'importe quoi, surtout. On ne peut absolument pas imaginer un référendum sur le budget. Un référendum, c'est oui-non. C'est pas oui, mais je veux amender telle partie. C'est une façon de dévier le débat, je trouve, qui montre plutôt l'incertitude et l'impuissance de ce gouvernement qui sait qu'à la fin, il y aura une motion de censure sur son budget.
À l'Assemblée nationale, depuis des semaines, les oppositions réclament un projet de loi de finances rectificatif que le gouvernement refuse. Le député Jean-Philippe Tanguy, monsieur Finance du RN, estime qu'une fois encore, le Parlement est foulé aux pieds.
Un référendum sur le budget est en fait une dissolution, puisque le budget englobe toutes les politiques de la nation, de l'éducation jusqu'à l'armée, de l'intérieur jusqu'au ministère des Affaires étrangères. Donc proposer aux Français un budget devant les urnes, c'est une élection législative.
La proposition fait pour l'heure l'unanimité contre elle. Sur France 3, dans Dimanche en politique, le patron des députés LR, Laurent Wauquiez, dont le parti est d'ailleurs au gouvernement.
Mais ce qu'on attend, c'est pas ça du Premier ministre. Vous l'avez entendu nous dire clairement, le budget que je présenterai n'aura pas d'augmentation d'impôts. Rien.
Un proche du président de la République nous répond, sur le fond, tout dépend du fameux plan dont la présentation doit intervenir cet été, ajoutant, il y a tout de même un sujet de faisabilité juridique.
Et les conclusions de François Bayrou sur le prochain budget ne seront pas connues en principe avant le 14 juillet. Grand merci, Laurence Thomas. Voici à présent un document, le Laurence Perron bien sûr. Voici donc, je vous le disais, un document audio, historique, inédit. Cela concerne les circonstances de la mort de Jean Moulin, car l'université de Stanford aux États-Unis vient de publier les enregistrements d'une très longue conversation entre un journaliste allemand et Klaus Barbie, le chef de la Gestapo à Lyon à l'origine de l'arrestation du résistant français. 14 heures d'une interview réalisée sur 6 jours. Ça date de août 1979. Klaus Barbie était alors en exil en Bolivie. Eh bien, Boris Lemagne, vous avez pu écouter une partie de ces enregistrements.
Je n'ai pas torturé Jean Moulin, il s'est suicidé. Telle a toujours été la position de Klaus Barbie, contestée par des historiens, mais qu'il répète dans ses enregistrements inédits, en apportant toutefois des détails nouveaux sur les circonstances de la mort du résistant français.
En prison, nous avions une cave en bas. C'est là qu'il a fait une tentative de suicide. Il prenait de l'élan et entrait avec la tête dans le mur et s'ouvrait le crâne. C'est pour ça qu'il est mort.
Une version des faits qui semble tout à fait plausible, beaucoup plus plausible que celle jusqu'alors admise par les spécialistes, selon l'historienne Bénédicte Vergès-Chaignon.
Alors, la version la plus ancienne était que Jean Moulin aurait profité de ses déplacements dans la prison de Montluc, partant ou revenant des interrogatoires, pour se jeter la tête la première dans les escaliers. Ce qui posait question pour les gens qui connaissent la prison de Montluc, c'est que ces escaliers ne sont pas très hauts. Ce sont des demi-paliers. Donc on voyait mal comment, matériellement, c'était possible.
Et puis, dans ses entretiens, Barbie lève également le voile sur d'autres épisodes jusqu'alors inconnus des historiens. Le boucher de Lyon avoue notamment sa participation à l'exécution de milliers de juifs à Amsterdam en 1941 et en Ukraine quelques mois plus tard.
Boris Lemagne. Encore un kidnapping visant le milieu de la crypto-monnaie. 3 mois et demi après le rapt du cofondateur de Ledger, cette fois c'est le père d'un homme ayant fait fortune dans la crypto-monnaie qui a été enlevé cette semaine contre demande de rançon. Il a été libéré hier soir lors d'un assaut 2 jours après son enlèvement en plein Paris. 6 personnes sont en ce moment en garde à vue.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
Les Roumains de retour aux urnes. Nouvelle élection présidentielle aujourd'hui après l'annulation du scrutin de novembre dernier pour cause d'ingérence dans la campagne. À l'époque, le nationaliste Calin Georgescu avait été déclaré vainqueur, mais il est désormais écarté du scrutin. La Roumanie qui semble bégayer, car 6 mois après, c'est encore un candidat nationaliste d'extrême droite, George Simion, qui est favori. Et encore une fois, les réseaux sociaux sont omniprésents. Nous retrouvons notre envoyé spécial en Roumanie. Bonjour Virginie Pironon.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Vous étiez ce matin au nord de Bucarest, près de l'ancien bureau de vote de Calin Georgescu, là où Georges Simion est venu voter il y a quelques heures. Et ça, Virginie, c'est un geste très symbolique.
Oui, au milieu d'une nuée de caméras, Kalin Georgescu a brièvement pris la parole pour dénoncer l'annulation du scrutin de novembre dernier.
Je ne suis pas ici pour valider cette fraude électorale. La Roumanie s'est réveillée. Il est temps de reprendre notre pays et le libérer des scélérats.
À ses côtés, celui qui espère bien s'attirer les faveurs de l'électorat de Georgescu, George Simion, qui affirme plaider pour un retour, dit-il, à l'ordre constitutionnel.
Nous sommes ici avec une seule volonté, rendre justice à la Roumanie.
Écharpe aux couleurs du pays, Marius est colonel à la retraite et il a voté, c'est une évidence, dit-il, pour George Simion.
Nous sommes roumains, nous sommes pour Kalin. Nous espérons de tout cœur que ces élections ne seront pas dénaturées et que la démocratie l'emportera en Roumanie aussi.
Longue barbe rousse, chapeau traditionnel, Gabriel, 33 ans, se dit reconnaissant envers les deux candidats pour lui avoir rendu une certaine fierté d'être roumain.
Quand on aime son pays, on apprend à aimer les autres. Si je m'aime moi-même, comment je pourrais vous vouloir du mal ? Je veux que la France prospère, comme la Hongrie, la Pologne, la Serbie. C'est ça être un nationaliste.
Une élection qui divise le pays en deux camps, avec de l'autre côté les démocrates très inquiets, ce qui explique la très forte participation. À la mi-journée, près de 20% des électeurs ont déjà glissé un bulletin dans l'urne.
Notre envoyé spécial en direct de Roumanie, Virginie Pironon, avec les moyens techniques de Romain Lucquens. Et bonjour Anita, Adina Révol.
Bonjour.
Vous êtes enseignante à Sciences Po, vous êtes l'ex-porte-parole de la Commission européenne en France. Je précise que vous êtes franco-roumaine. Alors, un favori nationaliste, fan de Donald Trump, qu'est-ce que ça raconte de la vie de la population roumaine en ce moment ?
Ben écoutez, ça montre que la population roumaine est plus perméable que jamais à la désinformation et à un discours qui lui promet en fait un retour en arrière, un retour vers ce qui est perçu. Vous l'avez d'ailleurs montré dans le reportage de Bucarest comme un discours glorieux, la Pologne, la Hongrie ont été mentionnés. Et donc, ça montre qu'en fait, la population roumaine est plus divisée que jamais.
Et ça montre aussi ce dégagisme anti-système, qu'il y a eu probablement un manque manifeste de réformes en Roumanie.
Bah, écoutez, la Roumanie, en fait, elle a beaucoup grandi au niveau économique. La Roumanie d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la Roumanie d'il y a 20 ans. La Roumanie a connu pendant de très longues années des croissances de l'ordre de 6%. D'ailleurs, cette année, la croissance roumaine est prévue à 3,5%. Le PIB de la Roumanie par habitant a dépassé celui de la Hongrie, par exemple, qui était beaucoup plus développé que la Roumanie il y a une dizaine d'années. Donc la Roumanie a beaucoup grandi du point de vue économique. Mais ce qui s'est passé les deux dernières années, et ce qui peut expliquer en partie ce dégagisme, c'est une forte inflation. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Roumanie a connu la deuxième plus forte inflation de l'Union européenne. Et je crois que c'est ce qui explique en partie la volonté d'une partie de la population d'en finir avec les partis traditionnels qu'ils voient comme étant décrédibilisés parce que ces partis-là n'arrivent plus à trouver des solutions très concrètes pour maintenir le pouvoir d'achat qui a été en forte croissance depuis des années.
Avec en plus un déficit public sans équivalent dans l'Union européenne à plus de 9% du PIB l'an dernier, la Roumanie qui va donc sûrement devoir revenir à une dure réalité. Cette Roumanie, Adina Revol, cette Roumanie, elle pourrait donc ce soir renforcer un axe en Europe de l'Est, un axe très critique vis-à-vis de l'Union européenne, avec la Hongrie, avec la Slovaquie. Y a-t-il de quoi s'inquiéter, selon vous, de cet axe illibéral en Europe ?
Oui, vous avez tout à fait raison. Ce qui se joue aujourd'hui en Roumanie, c'est plus qu'une élection. C'est le risque de voir émerger une sorte de pacte de Varsovie 2.0 au sein même de l'Union européenne. Et c'est très grave parce que la désunion européenne, alimentée par un axe pro-russe, peut bloquer l'unanimité au sein de l'Union européenne, qui est très très important parce qu'elle peut freiner des décisions essentielles et affaiblir la cohérence collective de l'Union européenne à un moment moment critique pour notre avenir. Et les décisions très concrètes, c'est par exemple le renouvellement des sanctions à l'égard de la Russie, les priorités budgétaires, la future adhésion de l'Ukraine, donc des choses très concrètes sur lesquelles cet axe pro-russe peut avoir un impact très, très, très fort. Donc il faut le dire clairement, c'est un possible affrontement entre la démocratie et l'autoritarisme, entre la vérité et la manipulation.
Merci beaucoup. J'aurais voulu vous interroger sur l'Europe et l'influence de la Russie. Est-ce que l'Europe, en deux mots, est-ce qu'elle est trop timorée pour réagir, pour contrer les tentatives de manipulation ? Quelques secondes.
Écoutez, je crois que non, parce qu'en fait, l'Europe, c'est nous. Donc, c'est à nous de nous mobiliser. D'ailleurs, les citoyens roumains aujourd'hui se mobilisent justement pour voter et pour montrer qu'on n'est pas timorés.
Merci beaucoup, Adina Revol, enseignante à Sciences Po, ex-porte-parole de la Commission européenne en France. Je vais donner le titre de votre dernier livre. Il s'appelle « Rompre avec la Russie, le réveil énergétique européen ». Le livre est paru chez Odile Jacob. Dans le sud de la Syrie, les civils sunnites redoutent depuis plusieurs jours l'ouverture d'un nouveau front. Les frappes israéliennes s'intensifient, notamment autour de Dera et jusque dans la capitale Damas. La perspective donc d'une offensive terrestre israélienne visant la région druze de Soueïda suscite des inquiétudes. Et dans cette région instable, déjà éprouvée par 14 années de guerre, les habitants craignent les dommages collatéraux d'un conflit qui les dépasse. Notre correspondant dans le sud de la Syrie, Mohamed Erami, a recueilli les témoignages de civils de cette région. Reportage.
À Nahwa, depuis la chute de Bachar al-Assad, les habitants vivent sous une double menace, celle des milices et celle désormais d'une armée israélienne de plus en plus présente dans la région. Vendredi soir, peu après 21h, des frappes ont visé la ville voisine d'Izra. Oum Hassan, habitante de Nahwa, contactée par téléphone, était chez elle avec ses enfants.
Une des frappes est tombée vraiment pas loin de notre maison et mes fenêtres ont même tremblé. Ici, tout le monde parle d'une opération imminente d'Israël. Cette idée m'effraie énormément et je n'arrive même pas à laisser mes enfants aller à l'école. Et quand ils entendent les avions, ils ont peur.
Plus au sud, en remontant vers Dera, l'inquiétude grandit chez les civils sunnites. Ils redoutent d'être pris en étau si une offensive israélienne vise la région druze de Soueïda. Nader, aussi appelé Abou Ma'an, en appelle aux nouvelles autorités syriennes.
Nous, on demande que le gouvernement nous trouve une solution ou conclue un accord avec Israël pour protéger définitivement les civils.
Dans ce sud syrien oublié, les habitants ne demandent plus justice, juste une trêve, une issue ou au moins une réponse avant que la guerre ne repasse une fois de plus par chez eux. Damas, Mohamed Erami, France Inter.
Le Yémen revendique le tir de missile tombé ce matin près de l'aéroport international Ben Gurion dans la région de Tel Aviv. Le cratère fait plusieurs dizaines de mètres de profondeur et également en diamètre. Le trafic a été brièvement interrompu, il a pu reprendre. Ceux qui nous ont attaqués ce matin subiront des représailles 7 fois plus fortes, affirme Israël. Et je précise que Benjamin Netanyahou réunira ce soir à 18h heure de Paris son cabinet de sécurité. Un mot de sport. Avec le rugby, demi-finale de la Champions Cup, cet après-midi à 16h, Bordeaux accueillera Toulouse à guichet fermé. Les Toulousains qui vont jouer sans Antoine Dupont et sans Thomas Ramos. La musique avec le dernier album d'Aimé Simone. L'album s'appelle Rêve, R-E-V. Le chanteur franco-norvégien de 20 ans s'éloigne du côté intimiste de ses premiers titres. Ce dernier album raconte l'histoire d'un ange déchu en quête d'humanité. Mathieu Culeron.
Rêve, c'est le nom d'un album concept élaboré par Aimé Simone qui a décidé de faire un virage artistique pour incarner différents personnages.
Ce sont tous des personnages qui font partie de moi, mais en même temps j'essaie de m'effacer derrière eux. Mais à travers la fiction et les personnages, j'ai pu aller plus profond en moi et dire des choses que j'allais peut-être pas pouvoir dire en tant que Aimé Simone tel qu'on le connaît. Voilà, c'était aussi un moyen de peut-être être encore plus sincère finalement.
Ce dernier album d'Aimé Simone évoque la paix et l'unité, le chanteur d'origine norvégienne dont l'un des titres est devenu un hymne en Ukraine avant et pendant la guerre.
Mon premier hit, entre guillemets, c'était In This Dark Time, mais c'est un hit qui a eu naissance en Ukraine pour faire la fête pendant la pandémie quand tout le monde était confiné, eux ne l'étaient pas. Puis après, il y a eu la guerre en Ukraine. Et là, je recevais des messages différents sur Instagram et sur les réseaux sociaux. J'ai reçu des messages qui me disaient, là, j'écoute la chanson sous les bombes en étant réfugié dans un métro. Et là, je me dis, waouh, rêve, c'est vraiment l'idée de donner une arme aux gens et un bouclier à la fois pour qu'ils puissent défendre ce en quoi ils croient, ce qu'ils sont et leur humanité.
Aimé Simone prend des risques artistiquement avec cet album, tout en étant plus en phase avec son temps et lui-même. Un concept total qui prendra tout son sens lors de la tournée à venir.
Rêve donc, le dernier album d'Aimé Simone. Il sera en concert à l'Olympia, à Paris donc, le 20 novembre. Le temps.
La météo avec le Boom Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Magali Rouchereau.
Bonjour Eric.
Les conditions se dégradent sur le sud?
Oui, les averses se multiplient pour devenir intenses entre Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes avec des orages de grêle, d'importants cumuls de pluie et du vent au-dessus de 70 km par heure en rafale. Vigilance entre le Massif central et la région Rhône-Alpes. Dans le nord, le front, lui, ne progresse pas beaucoup, toujours situé entre la Vendée et l'Alsace, donnant un ciel changeant, parfois bien ensoleillé vers la Bretagne et toujours balayé par ce vent de nord-nord-est qui rafraîchit bien l'ambiance. Et nous voilà revenus vers des impressions de tout début de printemps.
Oui, et on l'a bien ressenti déjà, les températures sont en baisse.
Oui, les maximales chutent pour revenir à des valeurs autour des normales saisonnières, voire bien en dessous dans les régions nord sous le front, où elles perdent jusqu'à 10 degrés par endroit. Il fera 13 à 17 degrés du nord de la Loire jusqu'au Grand Est, quand dans le sud, le mercure ne dépassera généralement pas les 20 degrés, sauf jusqu'à 22 quand même à Limoges et 23 à Grenoble.
Magali Rochereau.